d'emploi. Mode d'emploi.
À l'écoute de l'émission mode d'emploi de Fréquence Paris Pluriel, fréquence 106.3, avec aujourd'hui une émission animée par une équipe composée des militants intermondialistes, membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf. Alors nous sommes ici rassemblés dans le studio de Fréquence Paris Pluriel avec Boris, Gaël, Sylvain, Claude et notre invité Nicolas Berthomo, avec qui nous parlerons tout à l'heure de l'actualité altermondialiste, c'est-à-dire du Forum social de Florence, Firenze 10+10. Mais tout de suite, nous attaquons par la première chronique. Alors en l'absence de Jean-Marc, je vais le remplacer au pied levé et vous parler de l'actualité avec, en l'occurrence, la notion qui nous est tombée dessus cette semaine, c'est-à-dire la France manque de compétitivité.
Et avec les idées très nouvelles du rapport gallois qui propose, encore une fois, de baisser le coût du travail.
Alors, baisser le coût du travail, c'est l'idée peut-être marronnière, comme on dit. Elle revient régulièrement. Elle revient tellement même régulièrement dans la presse qu'on a l'impression de l'entendre systématiquement. Alors, systématiquement, c'est que c'est une idée qui n'est pas neuve, vu qu'elle a été reprise à l'infini par tous les gouvernements, qu'ils soient socialistes ou non, depuis un grand nombre d'années. Une antienne, comme on dit, régulièrement reprise par le patronat et bon nombre d'économistes qui sont rarement de gauche. Alors les gouvernements Balladur, Rocard, Juppé ont toujours ciblé les salaires pour libérer les entreprises de cette charge, comme ils disent, parce qu'on parle dans leur bouche de charge patronale. Par exemple, en 93, Édouard Balladur exonérait totalement de cotisations sociales les salaires jusqu'à 1,1 SMIC, etc. Des grosses liberté sur les cotisations sociales. À partir même de 97, le gouvernement Jospin a maintenu l'ensemble de ces dispositifs. Donc, bien au contraire, ce n'est pas que la droite qui l'a mis en place, c'est bien aussi les gouvernements socialistes. On peut même parler qu'ils les ont amplifiés, vu que le coût de ces allègements ont explosé régulièrement. Le chiffre de 2009, c'est 22,9 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Donc quand on nous parle du trou de la Sécu, quand on nous parle de manque de déficit, voilà de l'argent qui est directement donné aux entreprises sous prétexte de baisser le coût de l'emploi.
Et on ne parle jamais du coût du capital.
Alors le coût du capital, on n'en parle pas. On insiste régulièrement sur la compétitivité française parce que c'est ça la notion clé. C'est pas finalement le travail coûte cher, c'est que la France n'est plus compétitive. Alors ça, c'est un constat malheureusement reconnu par tous les économistes. Et on le voit, on l'entend tous les matins à la radio, les entreprises ferment, la compétitivité est plus faible. Mais c'est néanmoins toujours les dispositifs fiscaux qui l'emportent dans les décisions des gouvernements. Alors, est-ce que ça marche? C'est ça la question. C'est est-ce que ces recettes de fiscales, de cadeaux aux entreprises peuvent marcher? Par exemple, est-ce qu'il y a un impact visible de cette recette? Alors, si en 2010, le gouvernement Fillon faisait un geste majeur en supprimant, par exemple, la taxe professionnelle, il n'y a eu aucun effet immédiat visible. Alors là, je cite pour cela des rapports d'économistes tirés d'un article très intéressant du Monde de cette semaine, où la baisse est montrée par des courbes de l'OCDE. On voit que l'impact de toutes ces baisses régulières sur ces dernières années n'a eu aucun impact. Alors, évidemment, on entend tous les patrons dire « il faut insister là-dessus, hein. Nous ne sommes pas assez compétitifs ». Alors, Une étude du cabinet KPGM, j'ai aucune idée de ce qu'est le cabinet
KPGM. C'est un cabinet de consulting.
Ah, enfin, un cabinet de consulting intéressant, j'imagine, a comparé les coûts d'implantation d'une entreprise dans 9 pays, dont la France, et la France est au 4e rang. Nous sommes le 4e pays le plus intéressant pour l'implantation d'une entreprise. Nous sommes devant les États-Unis, devant l'Allemagne, et le Japon est le bon dernier de ces 9 pays. Et même au niveau européen, nous sommes très bien placés au niveau de matière fiscale pour les entreprises, finalement. Le vieux continent est en général plus avantageux fiscalement que les entreprises d'Amérique du Nord. Donc, tout ce qu'on a en habitude à entendre, ce n'est pas du tout ça. Alors évidemment, ça c'est ce qu'on a en tête quand on lit cet article, mais ce n'est pas ce qu'on entend dans la presse. Hein. On entend les patrons nous répéter « il faut baisser le coût du travail ».
Effectivement, aucun des journalistes qui ressasse cette nécessité du soi-disant de baisse du coût du travail ne parle de l'absence de résultats tangibles de cette action.
Alors, le point culminant cette semaine, ça a été le rapport Gallois que tu évoquais tout à l'heure, avec une grande quantité de recettes, mais la recette principale, c'est encore une fois la baisse des cotisations. Mais l'association ATTAC et la Fondation Copernic ont proposé cette semaine l'anti-rapport Gallois. C'est un rapport de 25 pages qui est assez facile à lire, qui s'appelle « En finir avec la compétitivité ». Alors la compétitivité, c'est un mot qui amuse énormément les économistes parce qu'il n'a jamais été défini.
Alors, ça veut dire que ATTAC et Copernic sont contre la compétitivité ?
Alors ils sont surtout contre le mot. Hein, et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. On retrouve cette critique du mot compétitivité chez les économistes de droite, comme par exemple l'OFCE, c'est-à-dire le Centre de recherche en économie de Sciences Po, qui dit la compétitivité, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Parlons de données un peu plus précises. Alors par exemple, une des données clés, c'est l'investissement en recherche et développement. Or, en France, on a un investissement très insuffisant. On est à 2,1% du PIB contre 2,8% par exemple en Allemagne. Et même pire encore, les dépenses, si on cible uniquement le secteur privé en recherche et développement, il y a 15 milliards d'euros en France contre 31 milliards en Allemagne. Donc,
et ça malgré le crédit impôt recherche.
Alors, c'est une notion un peu subtile, mais c'est vrai que le crédit impôt recherche est une façon aussi simple pour les entreprises de ne pas payer d'impôts en disant qu'elles vont financer de la recherche. Or, si on essaye de regarder plus en détail, il y a eu pas mal d'analyses là-dessus, c'est simplement des économies d'impôts pointent à la ligne pour les entreprises. Alors, il y a beaucoup d'explications à cet impact de manque de compétitivité, surtout si on s'amuse à se comparer à l'Allemagne. Par exemple, nos PME sont excessivement dépendantes en France des grands groupes. Au lieu d'être indépendantes et d'être capables de produire intelligemment des richesses, les PME sont parfois très souvent sous-traitantes des grands groupes, ont une difficulté d'accès au crédit bancaire et subissent les grands coûts économiques. De la même façon, la France, par rapport à l'Allemagne, peut être comparée sur sa sensibilité au taux de change de l'euro. L'Allemagne a une monnaie forte, enfin avait une monnaie forte, a gardé cette stabilité. Et nous, nous sommes très sensibles par rapport au pays où nous importons et nous exportons par rapport à la stabilité de l'euro. Donc il y a beaucoup de petites explications qui sont totalement différentes de celles du coût du travail pour expliquer tout ça. Alors évidemment, une fois qu'on a mis au point toute une série de critiques pour dire le coût du travail qui est le bouc émissaire de tous les économistes de droite et des patrons, finalement on pourrait toujours répondre que faire si on ne fait pas ça? Parce qu'évidemment, le constat malheureux est là, hein, l'industrie française se porte mal, quelles sont les solutions? Alors si on file à la conclusion du rapport, de l'anti-rapport gallois d'ATTAC et de la Fondation Copernic, la conclusion est évidemment claire quand on a une conviction altermondialiste, c'est qu'il faut briser avec le système consumériste traditionnel, revenir plus à une nature de l'entreprise ayant pour objectif des services publics de toute nature, pourquoi pas des services publics de sobriété énergétique, de transformation et de répartition des produits de la nature plus proches des gens. Une réduction globale peut-être de la consommation, et tout cela en baissant, pourquoi pas, le transport. Hein, pourquoi pas, par exemple, imposer que la production soit uniquement locale.
Donc ça implique des solutions qui rompent avec l'objectif classique de croissance absolue de la richesse produite.
Alors, rupture avec la croissance telle qu'on l'entend économiquement, mais pas forcément avec l'emploi. Parce que si on se remet à produire localement, ça sera évidemment des emplois nouveaux dans un même territoire. Alors une façon de le mettre en place, parce qu'évidemment si on essaye de remonter les droits de douane, on finit aussi peut-être par bloquer une certaine forme d'échange entre les pays, mais pourquoi pas. Mais une idée comme ça, ça serait une taxe globale sur le kilomètre parcouru par une marchandise. Ce qui permettrait habilement de dire, voilà, si on produit très très loin d'ici, est-ce qu'il n'y a pas un coût pour la nature, un coût pour la société à se retrouver ainsi pénalisé par la distance ? D'autant plus que les entreprises aujourd'hui comme Renault, quand elles produisent en Roumanie, toutes les richesses produites sont aujourd'hui comptabilisées en Roumanie, au sens où la fiscalité roumaine étant plus intéressante que la fiscalité française en termes d'imposition des richesses, les entreprises françaises multinationales ont tendance à produire à l'étranger, tandis que les entreprises allemandes, elles produisent plutôt en Europe de l'Est et finissent l'assemblage et donc la production finale de richesses sur le sol allemand. Donc toutes ces notions-là, on les retrouve comme des critiques construites et intéressantes, et on aimerait en entendre plus souvent parler que ce que l'on entend quotidiennement dans les journaux à partir du rapport Gallois.
Et la contrepartie de cette politique de baisse du coût du travail, eh bien, c'est une politique de rigueur. Et la rigueur, c'est ce dont va nous parler Patrick. Enfin, parler, slammer.
Rigueur. Rigueur. Vous avez dit rigueur ? Pas de rigueur. Pas de mauvaise humeur. Juste quelques décisions, quelques modifications. À la rigueur. À la rigueur. Les éclairs au café seront décaféinés, les petits pains au chocolat seront sans chocolat, la côte de bœuf deviendra côte de veau ou côtelette s'il le faut, la côte de veau deviendra côte de porc, la côte de porc pour le dimanche et encore, et au mois d'août, tout sera goût. Oui, mais moi j'ai une barbe à pou pour cacher tous les ripoux, les épouses, les époux, qui ripaillent et s'encanaillent, barbe à pou pour cacher les rats d'égout, tous les rats, les scélérats, qui jour et nuit nous empestent, qui propagent la peste, qui donnent le choléra, barbe à pou pour y cacher les ministres, leurs déclarations sinistres, les mini, les maxi, les méga et les gigas, les mini qui maximisent, les maxi qui minimisent, les méga qui nous mégotent et les gigas qui gigotent. Barbapou, gigoti, gigota, trois petits tours et puis s'en va. Rigueur, rigueur. Vous avez dit rigueur. Pas de rigueur, pas de mauvaise humeur. Juste quelques décisions, quelques modifications. À la rigueur, à la rigueur. Demain au cinéma, il n'y aura plus de couleurs. Vous verrez qu'en noir et blanc, les films seront bien meilleurs. Et les orchestres n'auront qu'une trompette et un violon. Les mesures à quatre temps seront réduites à deux temps. De temps en temps. Plus besoin de se maquiller, il suffit de se laver à l'eau froide, rien de tel pour déboucher les oreilles. Plus besoin de se raser, la barbe, il faut la garder. Oui, mais moi j'ai une barbe à pou pour cacher tous les ripoux. Gigoti, gigota, trois petits tours et puis s'en va. Barbe à pou, la rigueur est parmi nous. Barbe à pou, la rigueur est parmi vous.
C'était Patrick Le Divenat, La Rigueur. Et nous enchaînons par une petite pause en réécoutant les grands discours de notre cher président.
S'il fait le choix de me porter à la présidence de la République, j'aurai alors le devoir, l'obligation de renégocier ce traité parce que le peuple français en aura souverainement décidé.
Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, le physiquement, le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement,
et l'idiotement,
oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement,
et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman,
qui ment rarement.
Et nous retrouvons l'émission Mode d'emploi, Fréquence Paris Pluriel 106.3, avec aujourd'hui l'émission est animée par un groupe de militants altermondialistes de l'association ATTAC et du journal Le Piaf. Nous recevons aujourd'hui en tant qu'invité Nicolas Berthomo, membre du comité du CA, comme on dit, hein, d'Attaque, de l'association Attaque, et il vient nous parler de l'actualité altermondialiste, en l'occurrence la tenue ce week-end du Forum social européen qu'on appelle de Florence, qui s'appelle Firenze 10+10. Nom assez étrange que l'on va essayer d'expliquer en détail. Alors, tout d'abord, pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un forum social ?
Les forums sociaux, c'est une initiative proprement altermondialiste qui a été lancée en 2001. C'était cette année-là un forum social mondial qui était à Porto Alegre. Et donc l'idée était de se faire rencontrer tous les acteurs progressistes qui luttaient, quel que soit leur champ d'intervention, pour un monde un peu différent que celui que nous imposait le capitalisme. Donc il y avait comme ça à Porto Alegre, la première année, 20 000 personnes à peu près, et je ne pourrais pas compter, dénombrer les réseaux présents et les associations présentes, mais il y avait énormément d'acteurs, surtout des acteurs sud-américains, puisque ça se passait à Porto Alegre au Brésil, qui se sont réunis pendant 5 jours pour discuter, pour présenter leurs actions, pour présenter leurs luttes. Et ça a été une plateforme comme ça de découverte de l'autre, de discussion, d'échange, de compréhension que les stratégies des uns et des autres, selon les continents sur lesquels on était, n'étaient pas les mêmes. Donc il y avait comme ça cet espace qui s'est créé au niveau mondial. Et chaque année, ça s'est reproduit. Là, cette année, donc 2012, il n'y en a pas eu, mais il y en a un en 2013, au mois de mars, fin mars, à Tunis. Ça sera le 12e ou le 13e. Donc c'est un processus qui s'est tenu de manière très régulière et qui manifeste un certain enthousiasme de la part des acteurs sociaux et qui continue très très bien. À côté de ça, il y a eu des forums sociaux continentaux. Donc il y en a eu un en Europe, le premier ça a été à Florence en 2003 et ou fin 2002, et là, il y a eu donc ce même espace qui a été créé de rencontres, de convergences, de découvertes de l'autre, et il y a eu donc 6 forums sociaux européens qui se sont tenus à travers l'Europe. Donc ça a été Florence, ça a été Paris, ça a été Londres, ça a été Athènes, ça a été Malmö en Suède, et le dernier ça a été en Turquie. Et là, contrairement au Forum social mondial, au niveau européen, parce que les acteurs aussi se connaissent par d'autres biais, il n'y a pas eu le même enthousiasme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les forums sociaux avançaient, il y a eu un essoufflement de cette dynamique-là. On les a tout d'abord espacés, ils étaient tous les ans, on les a mis tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, et jusqu'au dernier, qui n'a pas donné de suite. Et effectivement, il n'y avait pas grand monde présent, enfin, c'était un petit peu vraiment la mort du FSE. Là, ce qui va se passer à Florence, à Firenze 10+10, c'est une tentative de recréer un espace altermondialiste de mobilisation à l'échelle européenne. C'est-à-dire que sans le FSE, il n'y a plus vraiment cet espace visible et très large. Donc là, c'est recréer cette dynamique-là. Donc Florence, c'est pas un forum social européen, c'est une rencontre principalement des acteurs européens qui sont engagés dans des luttes. C'est ça un peu le cadre. Et l'enjeu, c'est comment redémarrer aujourd'hui, 10 ans après le premier forum social européen, cette convergence européenne pour mener des luttes à l'échelle qui est la nôtre, celle de l'Europe, puisque c'est au niveau de l'Union européenne que la plupart des mesures pour notre territoire sont définies. Donc comment construire un contre-pouvoir, comment construire une alternative au niveau européen ? C'est un petit peu l'enjeu de Florence qui va se jouer, qui se joue là en ce moment.
Pour ceux qui ont suivi dans les médias les grands moments altermondialistes, on a surtout l'impression que là où il y a eu le plus grand des moteurs, ça a été contre-sommet. Le moment où il y avait face aux altermondialistes, ou plutôt que les altermondialistes étaient face au grand forum économiste plutôt du pouvoir en place, comme Davos, ou comme les réunions du G8 ou du G20. Alors peut-être, y a-t-il aussi un essoufflement de ces contre-sommets ?
On l'a vu en France. Ouais. Globalement, il y a un essoufflement, ou on va dire une redéfinition des mouvements sociaux. C'est qu'on peut voir, par exemple, le dernier grand contre-sommet qui a été mené en France et en Europe. Ça a été face au G20 qui s'est tenu à Nice il y a un an, à la Toussaint l'an dernier. quand on compare le contre G20 de Nice à, par exemple, un contre G8, soit Gênes en 2001, soit Annemasse en 2003, d'un point de vue quantitatif, c'est un échec. C'est qu'on est passé de... À Gênes, on était 250 000 dans la rue. À Annemasse, on était 100 000. À Nice, on était 10 000 dans la rue pour la grande manifestation. C'est-à-dire le moment vraiment visible du contre-sommet. À côté de ça, il faut voir qu'il y a aussi des processus qui se mettent en place. Donc il y a la manifestation, mais il y a aussi ce qu'on appelle un sommet alternatif. Et celui de Nice a été une réussite, enfin, jugé telle une réussite. Il y a eu une trentaine d'ateliers, mais qui ont permis des convergences. Et aussi sur une question de fond, puisqu'on était en pleine crise européenne, Papandreou avait annoncé peut-être qu'il ne paierait pas la dette, il y a eu pression du G20 pour qu'il paye la dette, enfin bon, il y a eu toutes ces questions-là. Et là, il y a eu une réflexion stratégique qui s'est menée sur comment nous, on se positionne par rapport à cette nouvelle situation dans laquelle on est. C'est que la question de la dette, ce n'est pas que les pays du Sud, c'est aussi les pays de l'Union européenne. Bon, quelle est notre riposte? Comment on va réussir à non pas y aller chacun de notre côté, pays par pays, parce que là, on est perdant, mais comment on peut faire front commun pour réussir à renverser la machine et peut-être, c'est l'objectif, gagner le truc et ne pas se laisser avoir par le capitalisme.
Alors, ces forums ont à une époque marché, il y a donc 10 ans. Est-ce que, par exemple, en repartant de l'exemple du premier forum de Florence, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Florence 10+10, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait le forum social européen, je crois, à Florence. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance ou ce qu'il y a pu se produire là-bas, qui a finalement pu créer 10 ans de motivation pour le mouvement de protestation anticapitaliste et intermondialiste?
On était dans une phase où l'altermondialisme émergeait après, on va dire, 20 ans de résignation complète, où c'était l'arrivée lancinante et de plus en plus massive du fric et tout simplement du néolibéralisme. C'est la naissance de l'altermondialisme qui a un peu changé la donne. Il y a eu un gros attrait, avec couverture médiatique conséquente, mais un attrait populaire, on va dire, pour ce mouvement-là qui était nouveau dans sa forme, puisqu'il n'était pas un vieux, enfin je dis vieux, mais historiquement issu du marxisme, avait des nouvelles revendications, avait surtout ce nouveau regard. C'est que, par exemple, ce qui concerne un paysan malien, c'est la même chose finalement, c'est les mêmes mécanismes à l'œuvre que derrière les taxes que les États-Unis veulent mettre sur le Roquefort, et après on démonte un McDo. Et l'altermondialisme, ça a été tenter d'unifier un petit peu tous les combats et montrer que derrière ça, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes politiques. Et il y a eu cet attrait, et les forums sociaux ont été la manifestation de ces attraits. Et Florence, oui, c'était vraiment la grande manifestation de Florence contre la guerre en Irak, c'était le contexte. C'était 1 million de personnes, paraît-il. Moi, j'y étais pas.
Tu n'y étais pas?
Moi, j'y étais.
Ah, Boris va pouvoir nous parler de l'ambiance de Florence il y a 10 ans. Alors.
Exactement. Ouais, non, c'était intéressant parce que c'était nouveau aussi. C'est-à-dire que moi, j'y suis allé, j'étais militant, jeune militant, et j'avais organisé 2 bus de jeunes militants aussi, d'un peu tous les groupes. Et il y avait une ambiance assez chouette de découverte. De rencontres, c'était un peu compliqué pour discuter puisque il y avait une organisation technique qui était difficile pour avoir les traductions européennes de toutes les langues. Mais je me rappelle en tout cas de débats très intéressants, et surtout à l'époque l'Europe était majoritairement à gauche, donc il y avait des vrais débats entre par exemple les syndicats et les hommes politiques qui pouvait être là, donc qui était engagé quand même à gauche. C'était quelque chose qui commençait, mais en tout cas il y avait un côté intéressant et on va dire quelque chose qui donnait envie de continuer ça.
Et ça a été pourquoi on a continué sur Paris l'année suivante, sur Londres l'année suivante, et c'est juste après Londres en fait que ça s'est un petit peu étiolé. Parce que c'est une structure aussi lourde à monter. Enfin, je veux dire, un truc comme ça qui accueille... la manif, il faut l'organiser, mais c'est surtout effectivement tout l'aspect logistique, traduction, trouver les lieux pour les salles, les ateliers, tout ça. C'était lourd, et un truc comme ça tous les ans, c'était grosso modo chaque organisation détache un salarié pour que ça. Donc il y a eu ce choix d'espacé, il y a eu l'essoufflement, tout ça. Mais si on prend, pour revenir à la question, qu'est-ce qui a pu émerger de Florence le premier FSE ? On peut voir que ça a été, par exemple, dans ce contexte où il y a eu la grande manif du FSE qui était contre la guerre, ça a été proposé ensuite dans le cadre du FSM, en fait, donc au niveau de la planète, ça a été proposé une grande journée d'action mondiale contre la guerre en Irak. Ça a été donc la journée de, je sais plus, du 19, du 25 mars 2003, et qui a été une réussite quantitative, pas en termes d'aboutissement, puisque la guerre a été déclarée trois semaines après. Mais bon, voilà, c'était un lieu, on va dire, aussi de proposition. Après, je pense que si on fait l'historique des FSE, c'est peut-être la seule proposition qui a vraiment été suivie. Et c'est ça, le problème du FSE, c'est que c'était un lieu de rencontre, d'échange, mais on n'arrivait pas à structurer les propositions, à se tenir sur des dates, sur un calendrier qui soit vraiment commun et partagé. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'émulation du début, on n'a pas réussi à maintenir la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un format un peu différent pour Florence 10 plus 10.
Et du coup, voilà, je rebondis sur le premier forum social européen. On était au début de l'Europe sociale, puisque c'est ce qui est réclamé par beaucoup de militants de gauche, d'avoir une vraie Europe sociale qui puisse répondre à la diversité des gouvernements et surtout aux propositions européennes qui sont faites au niveau global. Et c'est vrai que moi, j'avais, à l'époque, cette envie d'avoir un mouvement social européen, et c'est vrai qu'on sent qu'on n'y arrive pas, et c'est dommage. C'est un peu comme ça, mais c'est vrai que ça reste un objectif qui reste en vue, enfin, pour moi.
Mais c'est l'objectif, je crois, de Florence 10 plus 10.
Je pense aussi, oui, c'est vraiment l'objectif de garder ce courant, de garder ce fil conducteur, d'avoir vraiment quelque chose qui soit coordonné, puisque du coup, vu qu'on est en période de crise, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on a vraiment à avoir une réponse collective et supranationale, en tout cas au niveau européen.
Surtout que parallèlement, les grands de ce monde, eux, continuent à s'organiser, à se rencontrer. Ils se réunissent par exemple dans les gros G8. Et à cette occasion, on ne peut quand même écouter Trio nous en parler. Bonjour, vous êtes dans l'émission Mode d'emploi de Fréquence Paris Pluriel, fréquence 106.3. Aujourd'hui, l'émission Mode d'emploi est animée par une équipe de militants altermondialistes, membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf. Et nous recevons Nicolas Berthomo, membre du CA d'Attaque, qui nous parle de l'organisation des forums sociaux. Et le forum social en cours, c'est le forum social de Florence, Firenze 10 plus 10, qu'on évoquait être un peu en perte de vitesse par rapport à la dizaine d'années de grands forums sociaux qui se sont déroulés. Alors les forums sociaux européens sont en perte de vitesse, et peut-être que c'est finalement quelque chose de positif, soyons positifs. C'est peut-être parce que l'altermondialisme aujourd'hui est tellement bien organisé qu'il n'y a plus besoin de se rencontrer.
C'est une chose qu'on peut voir effectivement peut-être parce que sur les forums sociaux, parce que autant le Forum social mondial garde cet attrait que tout le monde a. Enfin, il y a des gens qui viennent, les réseaux s'inscrivent, proposent des trucs, et les gens repartent des FSM avec vraiment un sentiment d'avoir fait quelque chose d'intéressant. Le FSE, c'était pas ça, mais c'est peut-être parce que c'est juste l'échelle européenne qui ne permettait pas ça, puisque un forum social où on découvre l'autre, comme on est comme sur un espace qui est relativement homogène, celui de l'Union européenne et plus globalement l'Europe, peut-être qu'il n'y avait pas ce besoin. Et peut-être que l'un des échecs du FSE a été justement qu'on ne débouchait sur rien. Et l'avantage dans cette reconstruction qu'on fait aujourd'hui là avec Florence 10 plus 10, c'est qu'on ne refait pas un FSE. On ne sait pas une, où le processus du FSE, si vous voulez, c'est chaque organisation propose un atelier. Ensuite, on essaye de tous les faire rentrer dans la grille du programme par rapport aux salles et autres. Mais on a un catalogue d'ateliers et il en ressort pas grand-chose, à part une déclaration plus ou moins commune et admise le dernier jour dans l'Assemblée des mouvements sociaux. Alors que là, Florence prend les choses complètement à revers de ça. C'est que ce sont des réseaux déjà constitués et déjà sur des luttes nationales ou européennes qui vont être présentes à Florence et qui vont proposer les ateliers. Et les 4 jours de Florence s'articulent de sorte à ce que ça soit toujours une réflexion stratégique sur comment est-ce qu'on gagne. Donc par exemple, là, j'explique brièvement comment s'organisent les 4 jours du FSE. C'est qu'on avait jeudi 8... Nous avions en fait des réunions stratégiques des différents réseaux européens déjà constitués. Donc j'en cite quelques-uns. Il y avait le réseau sur les banques, il y avait le réseau financiarisation de la nature, le réseau eau, le réseau grands projets inutiles, le réseau gaz de schiste, démocratie et autres. Donc ça, c'était la première journée. Les réseaux réfléchissent à leur stratégie sur le court et le moyen terme. La seconde journée, vendredi 9, donc aujourd'hui, ça doit se finir en ce moment, c'était la réunion inter-réseau. Donc ces différents réseaux qui sont un nombre, je ne sais pas, d'une cinquantaine en Europe, vont se retrouver dans simplement 5 sphères d'alliance. C'est comme ça qu'elles sont appelées. Que je peux citer, c'est démocratie, dette, austérité, 3 biens communs, 4 droits sociaux et travail, 5 Europe dans le monde. Donc là aussi, c'est une journée de réflexion sur les stratégies pour, à moyen terme, remporter les victoires. Et les 2 journées qui restent, donc demain samedi et dimanche matin, c'est une réunion de convergence, interconnexion et action commune. Donc l'idée de Florence, c'était d'avoir 4 jours, qui est à peu près le temps d'un forum social habituellement, mais vraiment avoir en ligne de mire cette question, qu'est-ce qu'on fait et par quel moyen on peut espérer gagner nos combats. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette initiative Florence 10+10, c'est qu'on... On va dire qu'on a un peu épuisé la forme FSE de rencontre, de découverte des autres. Maintenant, on passe à une nouvelle phase. On va construire quelque chose en commun. Donc là, il y a quelque chose qui est... On tourne une page. On rentre dans une seconde phase de l'altermondialisme.
Donc c'est une phase de lutte. On a vraiment cette impression de lutte pied à pied, donc de propositions concrètes, d'alternatives. Alors est-ce qu'on peut imaginer que ça va être... des grands rassemblements de protestation? Est-ce que ça va être des constructions alternatives au sens de nouvelles organisations qui peuvent naître de ça?
C'est très, très dur à définir parce que il y a eu des réunions préparatoires, mais à la mode italienne, donc elles ont commencé simplement mi-septembre. Moi, j'ai pas suivi, enfin, j'étais pas présent. Simplement, je sais qu'à la réunion à Milan le 15 septembre, on a commencé un petit peu à comprendre ce qu'on pouvait faire de Florence. Donc c'était il y a un mois et demi. Mais après, le travail s'est engagé. J'ai pas suivi le travail vraiment de préparation, de construction des dernières minutes, où c'est là où tout s'est joué. Mais je pense que chaque réseau a ses objectifs. Chaque organisation qui est impliquée dans différents réseaux, c'est le cas d'Attaque, a à peu près ses objectifs. Donc je pense que chacun va arriver avec des propositions, pas simplement pour présenter ses revendications globales, mais dire, bon bah voilà, nous, par exemple, sur la campagne banque, on pense qu'il faut vraiment qu'on cible sur la Banque Centrale Européenne, sur cet aspect des traités européens qui rend indépendante la Banque Centrale. Il faut lutter contre aussi la séparation des banques et autres. Donc je pense que chacun a ses revendications et après le tout c'est de les partager, de les articuler pour mener des campagnes communes et trouver les leviers sur lesquels on peut agir pour changer les choses.
Et la suite de ces forums, c'est qu'il y a un forum social mondial à venir qui sera à Tunis en mars.
Donc ça c'est effectivement dans le processus des forums sociaux mondiaux. Le dernier, c'était à Dakar en février 2011. Et donc là, celui qui arrive, c'est mars à Tunis. Le lieu, bon, bah, c'est celui du début des révolutions ou des révoltes. Les termes varient d'un locuteur à l'autre. Des révolutions arabes. Donc c'est un lieu stratégiquement important. Comment un peuple a réussi à virer un gouvernement? Et c'est là que va se faire la rencontre, effectivement, de tous les acteurs progressistes en lutte aujourd'hui à travers la planète.
Et d'autres rendez-vous sont à prévoir. Si aujourd'hui un militant veut aller protester, se retrouver face à la police pour montrer que la terre mondialiste, pour montrer que la protestation peut faire peur aux puissants, quel rendez-vous peut-on lui donner ?
Difficile à dire. La forme des contre-sommets, elle est plus aussi facile à tenir que les années précédentes. Donc la confrontation directe, on va dire, entre une institution gouvernementale, un terre étatique et des manifestants altermondialistes, on ne la retrouve plus aujourd'hui vraiment. Et elle n'est pas planifiée, à ma connaissance, dans l'année à venir. Mais il y a des lieux où on peut quand même se retrouver. Donc il y a le FSM à Tunis en mars. Il y aura aussi l'Alter Summit à Athènes, qui sera un événement beaucoup plus important que, en point de vue quantitatif, que Florence. Florence, c'est vraiment les têtes de réseau, on va dire, les réseaux qui se retrouvent. L'Alter Summit, c'est vraiment un lieu qui va être un lieu de mobilisation large. Et ça se tiendrait donc au mois de mai à Athènes, donc en Grèce, qui est un lieu quand même assez symbolique de tout ce que l'Union européenne a pu faire. Dans le capitalisme aujourd'hui, sur un État.
Eh bien, merci Nicolas, mais une autre réponse aurait été de donner rendez-vous à tout militant qui se respecte pour aller défendre les militants qui sont aujourd'hui assiégés à Notre-Dame-des-Landes, ce dont Boris va nous parler rapidement.
Exactement. Et il y a un an, nous avions au téléphone dans cette même émission Julien Durand, membre de la Confédération paysanne et porte-parole de la coordination des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. De Nantes. Il nous expliquait en détail en quoi ce projet malvenu et surtout les points. En résumé, sur le plan économique, l'aéroport actuel fonctionne bien, il est en sous-capacité. Construire un nouvel aéroport, ça coûte cher pour un gain nul. Écologiquement, la zone choisie est un bocage humide, typologie de territoire en voie de disparition dans le monde. Humainement, une dizaine d'exploitants agricoles vont être rayés de la carte. Alors, vous pouvez d'ailleurs écouter nos émissions sur le site de RFPP. L'adresse est www.rfpp.net en choisissant mode d'emploi, évidemment. Beaucoup d'émissions ont parlé de ce sujet ces derniers temps, donc vous pouvez réécouter aussi. Mais à l'époque, une délégation d'opposants avait rejoint à vélo et en tracteur Paris afin de prendre pacifiquement d'assaut la capitale pour dénoncer un projet inutile et qui emplaisait sur les terres agricoles des banderoles proclamées « Oui aux moutons, non aux avions » ou « Pour les bocages et pâturages contre l'aéroport ». Somme toute, une manif de plus. Depuis, de l'eau est passée sous les ponts de Nantes, et l'ancien maire de la ville est devenu Premier ministre, avec des écologistes dans son gouvernement, n'oublions pas. Et l'opposition manifestatoire s'est transformée en guerre civile, presque de tranchées, sachant que les travaux du futur aéroport du Grand Ouest, AGO, filiale à 85% de Vinci Airports, doivent commencer en 2014 avec des vols prévus fin 2017. Vinci, ça vous dit quelque chose ? Pas Léonard, hein, la multinationale, premier groupe mondial de concession et de construction, présent dans plus de 100 pays dans le monde, etc. etc., etc. Sur place, c'est la guérilla. Les opposants squattent, occupent, recrutent, s'installent, affaiblissent des infrastructures qui permettraient à la police d'abord et à Vinci ensuite d'occuper les lieux. Les routes sont crevées de fossés et recouvertes de tas de bois. Selon Le Monde, il aura fallu près de 5 heures à deux escadrons de gendarmes mobiles épaulés par les CRS pour détruire, mercredi 7 novembre, les 7 barricades dressées sur la départementale 280 entre l'entrée. Alors, évidemment, nous payons ces CRS pour s'opposer à ces gens qui défendent justement, me semble-t-il, une chose qui devrait être évidente, puisque même le personnel aéroportuaire s'oppose à ce projet. Alors, j'imagine que ces militants se souviennent que dans les années 70, les mobilisations contre Plogoff dans le Finistère, contre l'implantation d'une centrale nucléaire et celle du Larzac en Aveyron contre la construction d'une base militaire avait réussi. Et je suppose que aujourd'hui, sous le gouvernement Hérault, ils espèrent que ceci mène à quelque chose. Alors, si vous voulez voir plus d'infos, vous pouvez écouter deux émissions sur France Inter Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, sur le site de France Inter ou sur là-bas.org. Et il y a deux manifestations qui sont organisées demain à Paris et le 17 sur place. On vous invite à y aller.
Alors, des militants, il y en a toutes sortes. Et nous avons été, par l'intermédiaire de Gaël, à la rencontre de militants d'un type assez particulier. Je crois que tu les as rencontrés sur les marchés de Versailles.
Eh oui, ce sont des alter-alter. Vous avez sans doute vu ces tracts contre le mariage homo et contre l'adoption par les couples homo. On y voit deux gays presque nus, en tenue de cuir légère, genre collection d'été sadomaso, qui se tiennent main dans la main au milieu de la rue. Avec ce slogan, confieriez-vous vos enfants à ces gens-là ? Hein, Pierre, est-ce que tu vas confier tes enfants à des dépravés comme ça ?
Non, le cuir, ça fait des allergies.
Oui, il vaut mieux confier ses enfants à des bonnes familles catholiques traditionnelles, genre famille de Villiers. Alors, si vous allez au marché de Versailles, effectivement, vous pouvez non seulement recevoir ce tract, mais aussi discuter avec les gens qui le distribuent. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai discuté avec François-Xavier, un militant de l'association Civitas, qui a pour objet, je cite, de défendre les valeurs morales et sociales qui structurent la société. Et voilà ce qu'il dit.
On essaye aussi de réveiller les gens parce que les Français sont un peu en léthargie. Moi je pense qu'ils subissent beaucoup le système ambiant, tout ce qui est délivré dans les médias officiels, sur les séries télévisées classiques, où on répand des idées malsaines, tolérante dans le mauvais sens du terme. On peut tolérer les gens, mais on ne peut pas tolérer le mal. Nous, c'est notre principe, en fait.
Donc, l'homosexualité, c'est un mal ?
C'est un mal, et on ne peut pas le tolérer pour la société. Les gens ne les jugent pas, chacun fait des fautes, etc. On ne peut pas tolérer qu'une société se déstructure en acceptant le mariage homosexuel.
C'est un mal...
C'est un mal objectif, naturel.
C'est
même pas lié à la religion. J'irai même pas dans ce débat.
C'est quoi ?
Ouais, là, c'est un débat scientifique et je ne me permettrai pas d'y aller parce que peut-être qu'on prouvera que c'est une maladie plus tard, scientifiquement. Mais en tout cas, naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas normal. L'homme est fait pour développer une complémentarité avec la femme. On ne peut pas, comme modèle social, décider que le mariage homosexuel est une norme.
Quelquefois, on entend un argument en faveur de l'adoption par les homosexuels qui est qu'il vaut mieux une bonne famille qui éduque bien homosexuel plutôt qu'une famille pourrie hétérosexuelle.
Ouais, mais si on va là, on peut dire qu'il faut mieux un délinquant qu'élève bien son enfant qu'une famille classique, vous voyez. Donc je suis d'accord qu'il y a des cas par cas complexes, mais la loi générale, c'est de poser des normes pour l'être humain, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, l'équilibre d'un enfant, c'est d'avoir un père, d'avoir une mère, et c'est comme ça qu'il va pouvoir se développer de la meilleure façon. Mais, comme vous dites, on ne pourra pas empêcher des cas bizarres, incroyables, ou je ne sais pas, mais imaginons quelqu'un qui fait des casses dans des banques et qui éduque très bien ses enfants. C'est possible, mais c'est pas pour ça qu'on va dire qu'il faut décider que les casseurs de banques, c'est bien, c'est une chose bien. Et puis on va le légaliser d'ailleurs, on va permettre que les gens cassent les banques.
Pour en revenir au mariage homosexuel, il y avait déjà le PACS. Sans aller jusqu'à l'adoption, en quoi est-ce que ce serait dérangeant que d'étendre ce droit jusqu'au mariage ?
Le PACS, c'est pas, comment dire, on n'est pas dans l'institution. Le mariage, c'est une institution mais multiséculaire qui fait partie des sociétés occidentales depuis leur fondation et qui est vraiment qui est un socle. Ils font de la famille. Faut pas oublier que les sociétés, c'est un ensemble de familles. C'est pas autre chose que ça. La nation, c'est un ensemble de familles. Et on peut pas fonder une société sur 10 sociétés. La loi sur le mariage homosexuel, elle détruit l'institution naturelle, historique, traditionnelle du mariage et elle déstabilise la société.
Mais même au sein du mouvement catholique, tout le monde ne juge pas de la même manière l'homosexualité.
Je pense que le libéralisme catholique a fait beaucoup de dégâts parce qu'on a trop toléré certaines idées. On a accepté qu'elles se répandent dans la société. Je vous rappelle que les démocrates chrétiens, au moment de l'avortement, la loi sur l'avortement 74, globalement, n'ont pas beaucoup réagi, voire certains ont voté. C'est pas acceptable pour un catholique normalement, et puis bon, au-delà des catholiques, parce que nous on pense que tout Français, qu'il soit chrétien ou pas, il doit accepter l'ordre naturel qui est issu de la nature, issu de l'histoire.
Pour vous, l'homosexualité est hors de la nature ?
Elle est hors de la nature, elle est contre nature. Et c'est pour ça qu'on la refuse, parce que d'ailleurs, vous savez, les valeurs morales chrétiennes...
Elle se pratique chez les animaux.
Ça, c'est approuvé scientifiquement. En tout cas, pour la nature humaine, voilà.
Voilà, voilà, ça se passerait presque de commentaires, je vais quand même en faire un. Ce qui est intéressant, c'est que l'argument classique qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman disparaît très rapidement derrière une condamnation de l'homosexualité en tant que telle. Pour eux, l'homosexualité, est un mal, et c'est même hors nature, comme il dit. Et pour condamner l'homosexualité ou l'avortement, Civitas se réfère à un pseudo-ordre naturel qui se confond étrangement avec leur lecture de la Bible. Alors quelques mots sur Civitas, le mouvement qui distribue ce tract. C'est un mouvement qui vise, je cite, à restaurer l'ordre social chrétien et qui se réclame du catholicisme social. Le catholicisme social, c'est une doctrine du 19e siècle qui mêle à la fois quelques préoccupations sociales avec surtout beaucoup de conservatisme politique, voire même des positions ultra-réactionnaires. Aujourd'hui, Civitas est resté à peu près sur la même ligne politique que les catholiques sociaux du 19e siècle, c'est-à-dire une remise en cause radicale des valeurs de la Révolution et donc de la République, des droits de l'homme, de la laïcité. Ce genre de théocratisme a un certain succès dans d'autres pays, comme les États-Unis ou le monde arabe. Heureusement, chez nous, il reste très minoritaire, et ça relève plus du folklore versaillais que du fait politique.
Alors, pendant que Gaël va dans les marchés versaillais à la rencontre de militants alter-alter, Sylvain, lui, est passé au Salon du Chocolat, qui a permis, j'espère, pour lui, quelques dégustations agréable, mais qui lui a aussi permis de réfléchir à ce qu'est le chocolat.
Et ben, après m'être fait péter la sous-ventrière à plus savoir où en mettre et quoi faire et plus savoir marcher, je me suis enfin assis tranquillement derrière mon ordinateur et j'ai commencé à savoir d'où venait le chocolat et comment il est fait. Alors dans un premier temps, je me suis dit, mais comment est-il fabriqué ? Et j'ai donc appris que celui-ci était fait en 8 étapes. La première étape essentielle, la récolte du cacao, puis l'écossage, la fève du cacao et de la chair. Avec la chair, on en fait du beurre de cacao. Puis, une fois que l'écossage est fait, on le met dans la fermentation. Après la fermentation, on fait le concassage et la torréfaction de celui-ci. La torréfaction, c'est ce qui permet en fait de conserver le cacao. En effet, si on laisse un fruit de cacao tout seul sans être traité, il se met par pourrir. Une fois ce concassage et cette torréfaction fait, on passe au broyage. Le broyage donne une pâte de cacao. Après ce broyage, on effectue un malaxage et un broyage derrière. Pendant ce malaxage, c'est le moment où en fait on va rajouter le sucre, le beurre et le lait du cacao. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on va alors faire un long mélange de la pâte afin de pouvoir donner une texture onctueuse. La dernière étape est le moulage. Donc ça, c'est pour la production du chocolat. Mais derrière la production de chocolat, ce qui se cache, en fait, c'est bien le marché du cacao. Et derrière le marché du cacao, il y a des producteurs, des importateurs et des consommateurs. Et quand on regarde les producteurs de cacao, on s'aperçoit que, un, les producteurs de cacao se trouvent en zone humide, donc essentiellement autour de l'équateur. Donc le principal producteur de cacao, c'est la Côte d'Ivoire, avec 35%. En deuxième, le Ghana, 21%. Enfin, l'Indonésie, 15%. Les principaux importateurs sont, on pourrait penser que c'est la Suisse, parce que le chocolat est suisse, et non, pas du tout. Le premier est les Pays-Bas, le deuxième l'Allemagne, le troisième les US, et enfin, en quatrième position, la France. Et donc tout ça, ça représente énormément d'argent. Et en fait, oui, le cacao, ça représente 59 milliards de dollars par an. Alors, dans 9 milliards, je me suis posé en fait la question, mais combien touchent en fait les producteurs de cacao ? Et quand on regarde combien touchent les producteurs de cacao, on s'aperçoit que le coût d'achat total des importateurs, c'est 7 milliards. En fait, les importateurs, ils importent 7 milliards de dollars. Donc en fait, c'est que 12%. Donc quand on achète une tablette de chocolat, qu'elle soit équitable ou non équitable, le coût du cacao, ça représente 12%. Alors vous me direz, ça représente 12%, comment on fait ? Et quelles sont les différentes solutions pour équilibrer ce rapport ? Alors, les solutions qui sont avancées, c'est le commerce équitable. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était que le commerce équitable ? Et donc, j'ai donc, dans un premier temps, appris les différents types de commerce équitable, c'est-à-dire les filières non intégrées et les filières intégrées. Les filières non intégrées sont les filières, en fait, qui s'attachent uniquement aux producteurs de cacao. Les producteurs de cacao, donc, c'est essentiellement les pays pauvres. Et donc, quand on a dans les supermarchés des labels comme Max Havelaar, en fait, ce sont des labels qui garantissent uniquement les producteurs de cacao. Et donc, étant le plus connu, je me suis intéressé à son fonctionnement et la mise en œuvre, en fait, de ce label. Et dans tout label qualité, en fait, on retrouve le même problème. C'est-à-dire que la rémunération de ce label n'est pas faite par un organisme démocratique ni même international, mais n'est faite par les producteurs eux-mêmes. Autrement dit, si personne n'est labellisé, Max Havelaar ferme. Donc ça pose toujours un problème de savoir est-ce que finalement on a eu le label pour avoir de l'argent ou finalement on a eu le label parce qu'on le mérite. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est la qualité. En fait, comment Max Havelaar va réussir à assurer la qualité. Et en fait, en fait on s'aperçoit qu'en 2006, il n'y avait que 50 inspecteurs pour tout Max Havelaar, en fait, pour s'assurer de la qualité de l'ensemble des chaînes. Et en fait, c'est ridicule parce qu'il y a à peu près 1 million de salariés qui sont derrière Max Havelaar. La deuxième chose, c'est que Max Havelaar, en fait, garantit en fait le coût à l'achat du cacao. Et le problème, c'est que le coût à l'achat, en fait, de Max Havelaar, le garanti, il n'a pas bougé depuis 1994, en fait. Et que depuis 2006, le coût s'est envolé. Et donc, le coût d'achat des produits commerce équitable, en fait, depuis 2006, suit intégralement, en fait, le cours de la bourse de New York. En d'autres termes, aujourd'hui, Max Havelaar ne permet pas aux producteurs de cacao de se prémunir de la spéculation sur le cours de cacao. Donc, pour conclure, je dirais que les mouvements comme Max Havelaar, en fait, ne sont pas le paradis, mais ils se trouvent à la croisée des chemins entre le libre-échange et le libéralisme. Entre le libre-échange et une économie équitable, et les détruire créerait une rupture en fait dans l'économie et dans l'espoir d'avoir une économie, je dirais, plus humaine.
Et merci Sylvain sur le chocolat. On termine le plus rapidement possible par un ou deux points d'agenda et surtout par une annonce que nous faisons à la suite de l'émission d'il y a quelques semaines, une annonce qui n'est pas tout à fait prête. Donc Boris, premier point de l'agenda.
Alors demain une manifestation justement pour soutenir le Notre-Dame-des-Landes, le comité IDF de lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, organise une manifestation à Paris à 14h à métro Belleville.
Alors voici l'annonce.
Très rapidement, nous avions reçu Anastasia il y a quelques mois pour nous parler de la Grèce et elle est comédienne, elle fait la mise en scène d'une pièce. Cette pièce est en reprise, ça s'appelle La flottille de Grèce à Gaza. Et la bonne nouvelle, elle offre 20 places donc aux éditeurs de Fréquence Paris Pluriel. Et pour ça, il suffit simplement d'appeler le 06 11 61 87 31. 06 11 61 87 31. La pièce se joue, donc ça je ne l'ai pas dit, c'est à la Gare Théâtre, c'est à Vitry-sur-Seine. Si vous tapez sur Google Gare au théâtre un seul mot.com et vous auriez tous les renseignements. Voilà.
Et merci. Donc on n'a plus le temps pour l'agenda, ce n'est pas grave, vous pouvez aller le regarder en ligne sur les sites d'Hémosphère et les sites Tohubohu, vous aurez toute l'agenda de toutes les manifestations que nous allions vous citer. Alors, on termine par Ibrahim Malouf, une chanson. Mais tout avant, on va remercier Boris, Gaël, Patrick, Claude, Sylvain et notre invité Nicolas. Et donc Ibrahim Malouf, Beyrouth. Thank you.